Accent d'Europe, Catherine Roland.
يا حي أخ ويا حي زخ رصاصة على الناس العزل يا حيف.
Bonjour à tous. Depuis le début de la guerre en 2011, entre 400 000 et 500 000 Syriens ont été tués. Le conflit a jeté sur les routes des millions de personnes. La plupart s'est réfugiée dans les pays limitrophes. Une petite partie a tenté sa chance en Europe. 40 000 ont d'ailleurs demandé l'asile aux Pays-Bas. Mais derrière tous ces chiffres, il y a surtout des histoires d'hommes qui ont fui la guerre, les exactions. C'est le cas de ces deux jeunes Syriens qui ont accepté de témoigner au micro d'Antoine Moutot, témoigner de l'enfer qu'ils ont vécu là-bas, dans leur pays.
Depuis qu'il s'est réfugié aux Pays-Bas, Chevan se sent mieux. Ou du moins, il se sent chaque jour qui passe un peu moins mal. La souffrance, on peut la lire sur le visage de ce jeune Syrien. Sa maison à Alep a été détruite dans des bombardements, mais quelque chose de bien pire encore pour lui a bouleversé sa vie. Quand il commence à en parler, son regard s'assombrit.
They detained me. It was 20 November 2011.
Ils sont venus m'arrêter le 22 novembre 2011 à Damas. C'était les services de renseignement. Ils étaient en civil.
The intelligence without uniform. They just were like everybody. I said I would like.
J'étais sous le choc. J'aurais dit que je voulais voir un avocat. J'avais vu ça dans des séries américaines à la télévision, mais ça ne se passe pas comme ça en Syrie. Ils se sont mis à me frapper. Et quand j'ai appelé la police, ils m'ont dit que la police, c'était eux.
En 2011, Chevan milite activement contre le régime de Bachar al-Assad. Il participe à des manifestations à Damas. Un jour, son ami est arrêté et envoyé en prison. Tout le monde conseille alors à Chevan de quitter le pays. Mais il ne veut pas partir avant de faire libérer son ami. Et c'est là que les services secrets sont venus le chercher à son tour. En prison, il est constamment battu, ne mange pas souvent et se réfugie dans la prière.
One of them, he came to me and he
L'un d'entre eux m'a dit:
"You motherfucker, do you think this is church you wanted to pray?
Tu t'es cru à l'église? Dieu n'existe pas.
The only God is Bachar al-Assad.
Le seul Dieu ici en prison, c'est Bachar al-Assad. Et il a commencé à me frapper.
Hit me more.
Et un jour, ces geôliers s'adonneront au pire.
Le pire moment, c'est lorsqu'ils m'ont emmené au sous-sol. Il y avait une femme dans un coin. Elle était à moitié nue et on voyait bien qu'elle venait d'être violée. Elle ne bougeait pas et ne disait rien, mais elle était en sang. Et là, trois hommes, des soldats ou des agents des services de renseignement, sont arrivés. C'est là qu'ils m'ont violé, un par un. Ils m'ont dit: tu voulais la liberté? La voilà. Il y avait un garçon de peut-être 14 ou 15 ans. Un autre groupe d'hommes est venu le violer. Il appelait sa mère. Le son de sa voix résonne encore dans ma tête.
The echo still here.
Le régime accusait officiellement Chevan de collaborer avec le Mossad d'un côté et avec les djihadistes de l'autre. Grâce à un contact à l'extérieur et un pot de vin payé à des gardiens de prison, il parvient à s'enfuir. En tout, il aura passé un mois d'horreur en prison, son ami, lui, plus de 5 mois. Lui aussi sera violé et battu et perdra une dizaine de dents. D'après Chevan, leur homosexualité a été un motif supplémentaire pour leur bourreau. La colère est encore très forte quand ils pensent à eux.
Ces animaux m'ont forcé à faire ça. Je ne suis plus la même personne depuis. Je fais toutes les nuits les mêmes cauchemars. Je ne me sens plus jamais en sécurité. Mais je suis content d'être en vie et ici, aux Pays-Bas.
Aux Pays-Bas, Chevan est devenu le visage des réfugiés syriens victimes de la répression du régime. L'Organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International a choisi de partager son témoignage. Ruth Boskraaf d'Amnesty International explique pourquoi.
Aux Pays-Bas aussi, certains ne veulent pas voir arriver des réfugiés. C'était donc important de montrer quelqu'un comme Chevan qui a été torturé dans une prison syrienne, ce qui arrive très souvent.
Il y a quelques semaines, Amnesty International publie un rapport selon lequel près de 18 000 personnes étaient mortes dans les prisons syriennes depuis le début de la guerre civile. Un chiffre terrifiant auxquels s'ajoutent les plus de 65 000 personnes portées disparues. Et il y a aussi les autres centaines de milliers de victimes de la guerre. Les plus chanceux ont pu se réfugier en Europe, comme dans ce centre d'une grande ville des Pays-Bas. Certains sont assis, écoutent de la musique ou discutent entre eux. Sur un banc, le regard vide mais le sourire aux lèvres, Abou Samer Al-Adab, 20 ans, accepte de raconter son histoire. Ce n'est pas son vrai nom, mais le surnom de son frère qu'il aimait tant et qui a été tué en 2013.
Mon père et mon grand-père sont morts pendant un assaut du régime autour de ma ville dans la région de Damas. Je n'arrête pas de repenser à ce qui s'est passé.
Abou Samer Al-Adab aurait dû faire son service militaire, c'est obligatoire là-bas. Mais pas question pour lui de faire la guerre et de tuer des innocents. Alors il s'est réfugié, lui aussi, aux Pays-Bas. Pour lui, ce sont les civils innocents qui sont les premières victimes de cette guerre. Il accuse directement le régime de Bachar al-Assad.
Depuis le début de cette guerre, la vraie cible du régime, ce sont les civils innocents, les Syriens ordinaires. J'ai du mal à croire qu'ils se battent réellement contre des combattants ou des terroristes.
Aujourd'hui, il rêve d'une Syrie en paix. Peu importe les origines des gens, dit-il, nous sommes tous des êtres humains. Avant de nous quitter, il entonne une chanson entendue lors des manifestations de 2011, lorsqu'il pensait que la démocratie pouvait aussi émerger dans son pays, la Syrie.
Outre les bombardements, Amnesty International affirme que 300 personnes meurent chaque mois dans les prisons syriennes. Elle s'appelle Marina Kaljurand et elle pourrait bien devenir demain la première femme à présider l'Estonie. Marina Kaljurand, jusque-là diplomate, ministre des Affaires étrangères, c'est la favorite parmi les 5 candidats qu'un collège électoral devra départager, Marielle Vituro.
C'est le politologue Velo Petäi qui le dit. Marina Kaljurand serait la candidate idéale pour incarner la présidence de l'Estonie. Le ou la résidente du parc Kadriorgu à Tallinn n'a pas beaucoup de prérogatives, hormis la politique étrangère et le fait d'incarner l'État auprès des citoyens. Pour cela, la candidate de 54 ans a toutes les cartes en main. Diplomate de carrière, ancienne ambassadrice à Moscou puis à Washington, Marina Kaljurand saura parfaitement défendre les intérêts de l'Estonie sur la scène internationale. Chevelure argentée, un sourire franc éclairant son visage, Marina Kaljurand a aussi le contact facile, un autre trait de caractère qui joue en sa faveur. Elle a presque l'image d'une mère douce et empathique, relève le politologue. Une présidente en prise avec le quotidien des Estoniens, c'est bien là où Thomas Ilves, sur le départ, avait échoué ces dernières années. Originaire de la communauté russophone d'Estonie par sa mère, Ekre, le parti d'extrême droite, a cherché à mettre en doute le bien fondé de sa citoyenneté estonienne, mais sans grand résultat. La famille de Marina Kaljurand réside depuis 3 générations en Estonie. Sa candidature a donc un aspect rassembleur que les autres n'ont pas. Jamais affiliée à une formation politique, mais déléguée par le Parti de la Réforme au poste de ministre des Affaires étrangères, Marina Kaljurand a brouillé les cartes du jeu politique en se présentant aux élections. Son expérience dans le domaine reste pourtant minime. Elle s'est faite peu entendre durant son année passée à la tête de la diplomatie. Si elle était élue, quelle femme politique sera-t-elle ? Se demande le quotidien Postimus.
Berceau du Fado, le quartier populaire par excellence de la Mouraria peut aussi s'enorgueillir de ses 70 nationalités. 30% se disent musulmans, des Indiens, des Pakistanais, des Bangladais pour la plupart, qui ont du mal à pratiquer leur culte dans des lieux devenus trop exigus. Alors la mairie de Lisbonne leur a promis une nouvelle mosquée, mais entre les problèmes de financement et l'emplacement choisi, la polémique enfle. Reportage Marilyn Darcy.
Les téléphones portables vissés à l'oreille, bangladais et pakistanais font des affaires dans la rue Ben Formose, où les boucheries et restaurants halal succèdent aux boutiques de vêtements. C'est là que sera construite la nouvelle mosquée de Lisbonne. Pour Rana Taslim Uddin, responsable de la communauté bangladaise de la Mouraria, cette nouvelle mosquée est indispensable.
La plupart des gens de notre communauté vivent dans la Mouraria. Mais pour prier le vendredi ou pour le ramadan, ils doivent aller jusqu'à la grande mosquée, loin du centre-ville. 5 fois le vendredi, ce n'est pas possible, parce qu'il n'y a pas de transport direct pour la grande mosquée. D'où la nécessité d'en construire une ici. Notre communauté représente 7000 personnes.
Les musulmans bangladais doivent en principe financer un tiers de la construction de cette nouvelle mosquée, ouverte sur la rue par un jardin et dotée d'une salle multifonction, un lieu de culte revendiqué au nom de la liberté religieuse. Rana Taslin.
Nous allons financer l'architecte. Les 3 millions d'euros permettront de construire 3 blocs. L'un sera réservé aux hommes et l'autre aux femmes. Le troisième, ce sera le foyer. Bruxelles aussi peut en financer une partie. La Mouraria, c'est aussi une zone historique pour les musulmans. Et c'est inscrit dans la Constitution que le Portugal respecte la liberté religieuse. Lisbonne est interculturelle, alors nous avons droit à une mosquée dans le centre.
Pour l'instant, la mairie de Lisbonne bute sur des questions d'expropriation et le projet risque de coûter plus cher que prévu. Les riverains sont inquiets. Paulo possède une officine d'encadrement tout près de Benformoso.
Si la mosquée se construit avec l'argent des contribuables, là, je ne suis pas d'accord. Moi, je paye des impôts. Je connais des Portugais en difficulté et qui ne reçoivent aucune aide de l'État. Mais si la mosquée est bâtie avec l'argent des musulmans, alors pour moi, c'est parfait. De toute façon, ils viendront ici avec ou sans mosquée, vous savez.
Dans l'absolu, les commerçants n'ont pas vraiment d'objection majeure. En revanche, l'emplacement retenu ne fait pas l'unanimité. Juan, vendeur en gros de fournitures scolaires et vêtements dans la rue Benformoso.
Ça ne changera rien pour le commerce et il faut respecter leurs droits. Mais je ne veux pas de problème. Si la mosquée attire trop de monde, il pourrait y avoir des frictions. Certes, c'est bien sur le plan religieux, mais je pense que la mosquée devrait être construite dans un quartier moins dense et dans de bonnes conditions.
Une pétition contre la nouvelle mosquée a recueilli 6500 signatures. Personne cependant ne semble vouloir incarner la protestation. Sans surprise pour Inès Valzigne, qui dirige Rénover la Mouraria, une association d'intégration.
Les gens qui stigmatisent systématiquement certaines communautés, certaines religions, se servent toujours de ces arguments. Ils surfent sur la montée du populisme un peu partout dans le monde. C'est de l'opportunisme idéologique qui ne correspond pas du tout à ce que les gens du quartier pensent, à ce qu'ils vivent en réalité.
C'est l'actuel Premier ministre Antonio Costa qui est à l'origine de l'idée d'une nouvelle mosquée dans la capitale alors qu'il était maire de Lisbonne.
Le Portugal est une référence en matière de prévention de la radicalisation. C'est grâce à notre façon d'intégrer les communautés d'immigrés. Et la Mouraria constitue un bon exemple de cette intégration. Nous avons réussi à construire des relations pacifiques entre les différentes cultures et religions, c'est un bel atout.
Pour Antonio Costa, nul État en Europe n'est à l'abri du terrorisme, mais la tolérance doit être cultivée. Pour l'instant, la mosquée qui pourra recevoir 600 fidèles a un gros problème, trouver les 3 millions d'euros pour son financement.
Chéri le lézard se fait bronzer le dos, à plat sur son rocher, il fait son gros dodo.
Et oui, ce qui pourrait ressembler à une mauvaise blague est pourtant bien réel. En Allemagne, 10 000 lézards d'une espèce rare doivent être déplacés dans un nouvel habitat pour laisser place à un projet ferroviaire coestimé 40 millions d'euros. Car de l'autre côté du Rhin, on ne badine pas avec la protection de la nature. Julien Méchaussi nous appelle de Berlin.
Le lézard des murailles est un bien joli petit reptile. Avec sa veinure brune sur le dos, ses points bleus sur le ventre, il habite les prairies du sud de l'Allemagne, dans le Land de Bade-Wurtemberg. En plus de ses qualités esthétiques, ce reptile, de son nom latin Podarcis muralis, possède une autre caractéristique. C'est une espèce particulièrement protégée. Alors, quand une colonie de lézards est découverte sur le tronçon en chantier d'une nouvelle ligne de train à grande vitesse, pelleteuses et camions n'ont d'autre choix que de couper leur moteur. Et la Deutsche Bahn, les chemins de fer allemands, doit déplacer chacun de ces animaux long de 20 cm, comme l'exige le droit allemand et européen. Dans des conditions bien déterminées, à des périodes précises, avec une météo appropriée, le tout exécuté par des biologistes formés et armés de petits lassos. Coût du déménagement, 4000 euros minimum par animal, plus les délais des travaux qui vont exploser. Si l'histoire peut faire sourire, elle vient cependant s'ajouter à la liste déjà bien longue des déboires du méga projet ferroviaire Stuttgart-Einundzwanzig. Les constructions de nouvelles lignes et surtout d'une immense gare souterraine en plein centre de Stuttgart ont provoqué la colère de nombreux citoyens, avec notamment des manifestations violemment réprimées par la police. En jeu, des coûts de construction qui ne cessent de s'envoler, estimés aujourd'hui à 10 milliards d'euros, et non pas par la Deutsche Bahn, ce même contribuable qui passera à la caisse pour sauver les 10 000 lézards des murailles.
Just a minute, the leader of the band wants to show you how well they can play. Let's listen.
Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Catherine.
Alors ce vendredi, nous allons célébrer le mélange des genres et la rencontre, les retrouvailles plutôt musicales de deux amis.
C'est l'histoire d'une amitié que ni les années, ni les choix personnels ou les kilomètres ne sauraient altérer. L'amitié qui lie Sam Genders et Mike Lindsay. Les deux Anglais ont en 2003 formé le groupe Tongue, qui a presque inventé un genre, la folktronica, comme son nom l'indique, un mélange de folk et d'électronique. Mais en 2007, Sam Genders décide de quitter son groupe pour d'autres activités non musicales avant, plus tard, de se lancer dans un autre projet, Diagrams, tandis que ses anciens camarades continuaient avec Tongue. Aujourd'hui, après 9 ans d'éloignement, notamment géographique, puisque Mike Lindsay vit désormais en Islande, les deux amis se sont retrouvés pour former Throes, nouveau groupe où leurs voix se mélangent à nouveau au fil de chansons parfaitement balancées entre sonorités synthétiques et organiques. C'est d'ores et déjà l'un des plus beaux albums de l'année.
Sur cet extrait du dernier album de Throes, à la réalisation il y avait Françoise Grelot. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur rfi.fr et sur notre page Facebook. Ne zappez pas dans quelques instants les infos.